pièces et main-d'œuvre est un atelier grenoblois de bricolage pour la construction d'un esprit critique. Ni experts ni contre-experts, ils analysent, à partir d'enquêtes, l'emprise de plus en plus totale de la technologie sur nos vies, au travers d'un système industriel planétaire et d'une économie unifiée. Récemment, ils ont publié un article intitulé « Leur virus, nos morts », également diffusé dans la revue lilloise chez Renard. Un article qui renseigne sur le caractère civilisationnel des pandémies telles celles de coronavirus, l'urbanisation, la destruction des habitats naturels, la pollution, le lien avec les maladies chroniques, entre autres, sont mis en perspective avec la crise sanitaire que nous vivons. Alors pour vous, l'émergence de pandémies telles que celle de Covid-19 que nous traversons, qui est une maladie zoonotique qui vient de l'animal, tout comme la grippe aviaire ou le sida, ces maladies trouvent leur cause matérielle dans la société industrielle. Alors est-ce que vous pouvez rappeler ce que ça signifie? Quelles seraient ces causes matérielles? Est-ce qu'on peut voir ça en termes d'habitat, c'est-à-dire les habitats urbains, pollués, surpeuplés, ou entre le contact entre différents types d'habitats, la ville et le biotope naturel?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'émergence de ces maladies qu'on appelle zoonotiques, donc qui viennent des animaux, elles s'accélèrent singulièrement depuis 50 ans. Avec l'accélération du mode de vie industriel et le fait que les humains maintenant se concentrent de plus en plus à la fois dans des grandes mégalopoles, les métropoles, mais aussi que ces métropoles ont tendance évidemment à manger le territoire naturel autour, puisque il y a aussi de plus en plus d'humains. Donc à la fois on densifie et on élargit la présence humaine sur la terre, et donc on va empiéter sur l'habitat des animaux qui jusqu'ici, jusqu'à il y a 100 ans, 200 ans, vivaient loin de nous. On n'avait pas de contact aussi proche et fréquent avec tout un tas d'espèces sauvages, évidemment. Et donc, on sait maintenant que la colonisation, en quelque sorte, du monde naturel par les humains, les rapproche des animaux et favorise la transmission de maladies qui jusqu'ici restaient dans le milieu animal, disons. Et donc, effectivement, tous ces virus-là, le SRAS, la grippe H5N1, le Ebola bien sûr, et puis le dernier en date, donc le Covid-19, nous viennent des animaux et du fait que on est trop proche d'eux et qu'on leur laisse pas d'espace pour vivre, en fait, tout simplement. Alors ça s'accélère avec toutes les grandes accélérations industrielles, c'est-à-dire les transports, évidemment les déplacements humains d'un bout à l'autre de la planète, la déforestation, l'urbanisation, on en a parlé, et l'élevage industriel et le trafic d'animaux sauvages. Tous ces facteurs-là font que quand on est entassé les uns sur les autres, on crée du contact, et le mot contact en latin a donné contagion. Donc on commence à comprendre un petit peu ce qui nous arrive.
Alors il y a aussi le fait très remarquable que les personnes les plus touchées par le Covid-19 sont des personnes qui, ou les plus sensibles, sont des personnes qui sont déjà atteintes par des maladies de civilisation, comme le diabète ou les maladies chroniques respiratoires. Et également, les personnes les plus touchées sont des personnes qui habitent en ville.
Oui, alors effectivement, quand on parle de maladie de civilisation, c'est les médecins qui utilisent ce terme. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire les maladies de la civilisation industrielle, en fait. C'est toutes ces maladies liées à la pollution de l'environnement, et puis aussi à des modes de vie, à une alimentation industrielle et à la sédentarité, à des modes de vie donc liés au fait que on fait moins d'efforts physique aussi, et puis qu'on vit dans un environnement de plus en plus empoisonné, l'eau, l'air, les sols, quel que soit le côté où on se tourne, les pollutions manquent pas. Et donc tout ça a créé en fait de nouvelles épidémies, en quelque sorte, même si le mot est pas approprié, il n'y a pas de contagion à proprement parler, mais on a quand même des épidémies d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, sans parler du cancer, qui sont directement liées au mode de vie industriel. Et effectivement, ces maladies-là, c'est ce qu'on appelle les facteurs de comorbidité en ce moment à propos du Covid-19, c'est-à-dire que les gens les plus fragiles, il y a les plus âgés, et puis il y a tous ceux qui sont déjà atteints de ces maladies industrielles. Donc il y a en quelque sorte une double peine, quoi. Les maladies industrielles, elles nous affaiblissent, nos capacités de résistance à d'éventuelles épidémies qui, par ailleurs, reste finalement assez bénigne pour des gens qui sont en bonne santé. Donc on voit bien que le mais ça c'est un vieux débat sur la question de la maladie et de la santé, c'est-à-dire que être malade, c'est d'abord ne pas être en bonne santé. C'est une manière un peu, ça semble évidemment pléonastique de dire ça, mais c'est vrai que plus on vit dans un environnement sain qui permet de garder des conditions de vie à peu près saines, moins on risque de tomber malade quand arrive un épisode comme celui-ci, évidemment. Et par ailleurs, en effet, on se rend compte que les gens qui sont affaiblis du point de vue respiratoire, qui ont des problèmes tout simplement de respiration au quotidien, ils vivent dans les zones les plus polluées. La pollution de l'air, ça tue beaucoup plus de gens que le Covid-19. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'hécatombe, hein. Tous les ans, c'est 48 000 Français. Et vous, dans le Nord, vous êtes bien placés pour le savoir, parce que vous êtes une région très touché par ça, mais nous aussi à Grenoble, hein, on a une forte pollution de l'air. Et ça, on s'est rendu compte aussi, là apparemment, que si on suit les zones d'épidémie du Covid-19 où il y a le plus de mortalité, on tombe en effet sur des endroits qui sont les plus pollués au niveau de l'air, que ce soit le nord de l'Italie, la zone de Wuhan en Chine, et puis malheureusement aussi en France, on regarde l'Île-de-France, les Hauts-de-France, c'est des endroits qui sont particulièrement touchés par les pollutions aux particules fines, et il semblerait que les particules fines soient un vecteur peut-être accélérateur de la circulation du virus, comme si c'était un fixateur, quoi, en quelque sorte, et donc qui pénètre les poumons plus facilement. Donc tout ça, ça dresse un tableau en effet d'une pollution industrielle qui favorise une épidémie.
Dans un ouvrage de 2009 intitulé « À la recherche du nouvel ennemi 2001-2025, rudiments d'histoire contemporaine », vous aviez en quelque sorte prédit ce type de crise. D'abord, qu'est-ce qui vous a permis de le prédire, de le prévoir ? Est-ce que c'est l'analyse d'un processus de rationalisation de l'existence qui est à l'œuvre dans notre société ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Et est-ce que vous pouvez évoquer une espèce d'ultimatum à ce processus, et vous en parlez un petit peu dans l'article, qui serait l'introduction de la contrainte, et on a l'impression qu'on y est un peu dans cette forme de contrainte, oui, avec le confinement.
Oui, tout à fait. Effectivement, pour les gens comme nous qui, depuis plus de 20 ans, essayent de comprendre le monde dans lequel nous vivons, à partir de ce qui nous a sauté aux yeux, c'est-à-dire que ce qui transforme le plus nos vies, le monde et la politique, c'était la technologie, en fait, c'était les avancées technologiques. Pour nous, pour les gens comme nous, ce qui arrive n'est pas une surprise. Et en effet, dans ce livre, on avait déjà envisagé le fait que, à l'occasion d'une crise qui pourrait être, par exemple, une pandémie, mais il y avait d'autres options possibles, et il y en a encore d'autres qui sont ouvertes, hein, malheureusement, eh bien, ces crises-là sont des moments où on peut accélérer, où le pouvoir peut accélérer la contrainte qu'il exerce sur les sans-pouvoirs, c'est-à-dire sur nous. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que la technologie, c'est quelque chose qui n'est pas neutre, évidemment, et qui permet de distinguer entre ceux qui la maîtrisent et la possèdent, ce que nous on appelle les technocrates, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les machines, les logiciels, l'intelligence artificielle, toutes ces choses qu'on est en train de déployer en ce moment, qui sont donc des ingénieurs, des techniciens, des concepteurs, des chercheurs. Eux, ce sont les maîtres et les possesseurs, en quelque sorte, de la machine. Et puis ceux qui subissent, au fond, qui ne peuvent rien, parce que, tout simplement, ils n'ont pas le savoir, et qui sont donc soumis à ce monde de plus en plus technifié, machiné. Et on le voit bien aujourd'hui dans le quotidien qui nous est fait. Et ce qu'on a essayé d'expliquer depuis 20 ans, c'est que ce développement technologique, en effet, nous fait entrer dans une société de contraintes. Ce qu'on entend par là, c'est le fait qu'il est de plus en plus difficile de vivre en dehors de la sphère technologique, et on le voit pas singulièrement en ces temps de confinement, c'est-à-dire que nos vies sont devenues entièrement dépendantes de la connexion, du fait d'avoir des outils qui nous connectent, mais qui nous connectent à quoi, au fond, qui nous connectent à la machine elle-même, au système, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus autonome. Il est très difficile pour nous d'avoir des vies autonomes dans ce monde technologique, et que donc il est possible pour le pouvoir de nous piloter en quelque sorte par le biais de sa machinerie cybernétique, comme on le voit par exemple dans les smart cities. Et c'est intéressant d'ailleurs de se dire que Wuhan, la ville d'où est parti le virus, fait partie des plus grosses smart cities au monde. C'est quoi une smart city ? C'est l'idée qu'on va piloter toute la vie des humains, mais les humains considérés vraiment comme des flux et des stocks, hein, de façon centralisée par la machine, c'est-à-dire on automatise absolument tout. Vous êtes connecté en direct avec les réseaux de transport. Vous avez maintenant des voitures autonomes qui vont vous remplacer. L'idée, c'est qu'on va remplacer la décision de l'humain par des automatismes machiniques. Et là-dedans, une fois qu'on est pris là-dedans, on n'a plus de liberté au sens non pas une liberté de choix comme ça qui serait celle d'un consommateur, mais de maîtrise sur sa vie. Nos décisions, notre façon de vivre sont pilotées en quelque sorte par la machine. Et évidemment, ce processus de rationalisation, il explose à l'occasion d'une crise comme celle qu'on connaît. Et chacun peut voir que maintenant, on en est à parler de contrôle par géolocalisation, par exemple, des personnes contaminées, d'utiliser le big data pour retracer les parcours de chacun et donc pouvoir éventuellement vous avertir si vous avez été en contact avec quelqu'un de contaminé. C'est déjà le cas, ça se fait à Singapour, en Israël, mais je lisais hier dans le Monde qu'un sondage a été fait auprès des Français et qui sont majoritairement pour cette idée-là, l'idée d'une application qui leur dirait, qui les suivrait, hein, qui leur dirait, bah, vous, à tel moment, vous avez été en contact avec telle ou telle personne et donc susceptible d'être contaminé. Donc on voit que cette idée que la machine prendrait en charge toute notre vie, elle est déjà largement acceptée et c'est évidemment pour nous pas une surprise malheureusement. C'est des choses qu'on a essayé de décrire et d'anticiper depuis très longtemps déjà.
Je cite toujours cet article, « Leur virus, nos morts ». Nous ayant conduit à la catastrophe, les experts de la technocratie prétendent nous en sauver au nom de leur expertise technoscientifique. Alors ça paraît tout à fait paradoxal. On pourrait même dire que du point de vue de tout ce qui a été dit précédemment, ça doit laisser quand même un goût. Ça donne aussi l'impression qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien pour éclairer un avenir moins sombre dans ce contexte-là.
Alors bon, nous on fait pas de prédictions, hein. Ouais. On n'essaye pas de, comment dire, de on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver. Néanmoins, il nous semble que si on cherche à trouver des pistes, des sorties de secours, il faut d'abord commencer par bien comprendre ce qui nous arrive. Et c'est ce à quoi nous essayons de nous employer depuis 20 ans, de vraiment comprendre ce qui arrive, d'où tout cela part. Et par exemple, contrairement à ce qu'on peut lire beaucoup ces temps-ci, pour nous, la question n'est pas du tout celle du capitalisme. On voit beaucoup, c'est la crise du capitalisme, etc. Non, pour nous, c'est d'abord, c'est quelque chose de plus profond. Et au fond, on pourrait très bien sortir du capitalisme. D'ailleurs, en ce moment, tout ce qui se passe au niveau économique nous laisse perplexes. Au fond, on voit l'État qui reprend la main, on parle de nationalisation, on parle de réquisition, et on pourrait très bien sortir du capitalisme. Ça ne changerait rien pour nous au fond du problème. Le fond du problème, il vient, on l'a dit, en ce qui nous concerne de la technologisation, si je peux dire, de nos vies et du mode d'organisation industrielle de nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons renoncé à exercer une part de notre libre arbitre et nous avons renoncé à une part d'autonomie en confiant toujours plus des parts de nos vies à un système centralisé et automatisé. Donc, si on se dit comment sortir de là, la première chose, c'est d'abord de bien comprendre les causes de tout ça. Les causes de tout ça, c'est probablement le fait que il y a à la fois chez certains, les technocrates et ceux qui ont vraiment les moyens d'agir, une vraie volonté de puissance, quelque chose qui est au-delà de simplement vouloir s'enrichir et devenir un capitaliste, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une volonté de puissance, de pouvoir tout ce qu'on peut sur le monde matériel et sur la vie. Et ça, c'est difficile de l'extraire de certains humains. Et puis, en face, ce qui sert cette volonté de puissance, c'est une forme d'abandon de soi, de résignation et de... J'ose pas dire le mot paresse, mais quand même, quelquefois on a cette sensation-là que les humains qui ont bénéficié de tout ce confort matériel, finalement ne savent plus trop ce que c'est que de faire un effort pour être libre. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on place le débat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour défendre cette liberté. La liberté, c'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes, c'est un travail de tous les jours, c'est un effort, c'est une tension. Est-ce que c'est à ça qu'on tient d'abord ou pas? Et bon, bah là, le débat est ouvert, hein. Nous, on défend cette position, peut-être que d'autres préfèrent, et en ce moment, j'ai un peu peur que ce soit ça, préfèrent mettre avant tout la sécurité, la prise en charge, avant la liberté. Bon, mais en tout cas, c'est sûr que il y a besoin de réfléchir à ces questions-là, en ces termes-là.
Donc ça rejoint aussi une critique de la gauche qui est formulée à la fin de cet article. Justement, elle est exprimée en termes de effectivement, il nous faut des services publics, effectivement, il faut des soignants qui soient beaucoup mieux payés, mais c'est pas là que ça se joue actuellement.
Si vous voulez, quand on lit les textes qui circulent, et Dieu sait s'il en circule beaucoup en ce moment, et tous ceux qui proviennent, disons, de la gauche ou de l'extrême gauche, des syndicats, de toute cette partie-là des militants, on a l'impression que comme je le disais, la solution, c'est encore et toujours d'abattre le capitalisme. Comme si, parce que ça repose sur une vieille idée qui circule beaucoup dans ces milieux-là, qui est que, au fond, la technologie et l'industrie, c'est neutre, ça n'a pas d'effet sur l'organisation sociale et humaine. Simplement, le problème vient de qui les possède. Et il suffirait donc en quelque sorte de s'approprier collectivement les moyens de production, hein, selon le vieux slogan marxiste, communiste en tout cas, et donc de gérer collectivement en quelque sorte le système industriel à notre profit pour en supprimer magiquement en quelque sorte tous les problèmes. Mais évidemment, ça c'est une illusion. Parce que l'industrie, le système industriel, l'organisation industrielle de la vie, l'exploitation industrielle du monde, ça implique en soi des transformations délétères. Par exemple, évidemment, on ne peut pas produire industriellement sans détruire l'environnement. Ça, on a beau tourner ça dans tous les sens, il n'y a pas de solution magique et miracle. Et on arrive maintenant au moment où on commence à toucher les limites. Et malheureusement, ce que disaient les écologistes depuis les très anciens, les plus anciens, depuis les années 30, 40, n'a pas été entendu. Et c'est seulement quand on arrive contre le mur maintenant qu'on commence à se dire qu'il y avait un problème.
Enfin, je reviens à cette question de la technologie et de son emprise de plus en plus totale sur nos vies. Est-ce que d'après vous, cette épidémie ou cette pandémie peut être l'occasion d'un basculement? Et j'entends par là l'idée que, effectivement, il peut y avoir tout un tas d'expérimentations, de nouvelles technologies, d'introduction de nouvelles technologies qui jusque-là auraient peut-être paru suspectes. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec la géolocalisation et aussi en termes d'habitudes prises par les consommateurs, consommatrices.
C'est évident puisque le réflexe massif, le premier réflexe au moment du confinement, ça a été de se jeter sur Internet et de dire au fond la survie passera par la connexion virtuelle, par la vie virtuelle. Donc c'est l'école à distance, c'est les téléconsultations médicales, évidemment le télétravail et ainsi de suite. Et personne n'a pensé qu'il pourrait en être autrement. C'est-à-dire que nous sommes déjà tellement habitués à ces connexions au quotidien que, au fond, ça a paru naturel. Alors, y compris pour des domaines où on pouvait peut-être, certains pouvaient quand même avoir un peu des réticences. Je pense notamment à l'école à distance, à l'école numérique. Mais là, on est en train, effectivement, de faire des expérimentations à ciel ouvert, en quelque sorte, à l'échelle de pratiquement d'une population planétaire, hein, puisque c'est maintenant un terrien sur deux qui est confiné. Et il est évident qu'on en tirera des leçons, enfin que le pouvoir en tirera des leçons pour dire, bah, vous voyez, ça apporte des choses, vous vous en êtes finalement bien sortis, pourquoi pas continuer. Ça, c'est évident qu'on est en train de faire une expérimentation en taille réelle. Mais j'insiste pour dire que c'était pas évident, on n'est pas obligé de faire ça. Et par exemple, si on n'avait pas retiré les manuels scolaires de bien des classes, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de classes qui n'ont plus de manuels scolaires avec l'école numérique, on aurait tout simplement pu dire aux élèves, bah, écoutez, vous avez vos manuels scolaires et vous allez pouvoir suivre des chapitres pendant ce confinement, travailler par vous-même avec, comme c'est le cas aujourd'hui, éventuellement l'aide à la maison de ceux qui sont là, ou éventuellement on aurait pu imaginer des systèmes avec des aides d'enseignants, hein, même à distance. Mais bref, il n'y avait pas de fatalité à se ruer sur Internet comme ça. Simplement, ça n'a pas posé question, parce qu'on est déjà largement habitué à ce système-là. Mais c'est vrai, on est en train de franchir des paliers sur lesquels je pense qu'on reviendra pas. L'autre exemple, c'est les consultations médicales à distance, évidemment, où on est en train de faire des expériences qui permettront ensuite de dire, bah vous voyez, il y a des déserts médicaux, mais on n'est pas obligé d'avoir un médecin dans chaque village. Après tout, on peut consulter son médecin à distance. Et oui, il y a des habitudes qui seront prises, c'est évident.
Cette interview a été menée avec pièces et main-d'œuvre, atelier de bricolage d'un esprit critique, à partir de leur article « Leur virus, nos morts », article que vous pouvez lire directement sur leur site piecesetmaindoeuvre.com. ¶¶